France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 mars. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un virage à droite payant pour Benjamin Netanyahou qui remporte les élections législatives et rate de peu la majorité absolue. Nous serons à Tel Aviv dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Le Covid-19 continue de se propager en France. 3 décès et 191 contaminations. Gros plan ce matin sur la question des transports en commun et inquiétude dans le secteur du luxe. L'Assemblée à l'heure des motions de censure pour dénoncer l'utilisation du 49.3. Alerte à Malibu, la moitié des plages pourraient disparaître d'ici 80 ans et puis la sortie demain du dernier Pixar.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Ils sont 3 en 48 heures. 2 députés et 1 sénateur ont quitté le groupe La République En Marche pour protester contre le 49.3 qui piétine selon eux les droits du Parlement. Ça tombe bien, on reçoit justement ce matin le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, à tout à l'heure Léa, nous recevons le grand entretien, dans le grand entretien de la matinale, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est la plus importante victoire de ma vie, une victoire contre toute attente. Benjamin Netanyahou lui-même semble surpris ce matin par l'ampleur de la victoire de son parti, le Likoud, aux législatives. Les indicateurs semblaient pourtant au rouge. Troisième scrutin en moins d'un an et premier scrutin depuis sa mise en examen pour corruption, abus de confiance et malversation. À 15 jours de son procès, Benjamin Netanyahou obtient donc le meilleur résultat de sa longue carrière politique. Un succès dû en grande partie à sa promesse soutenue par les États-Unis d'annexer rapidement la vallée du Jourdain et les colonies juives en Cisjordanie. Frédéric Mettezo, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Tel Aviv. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
La question ce matin, Frédéric, est de savoir si un parti pourra obtenir une majorité absolue.
Alors, on sait déjà que Benny Gantz n'aura pas de majorité absolue et que Benjamin Netanyahou a une possibilité d'en obtenir une grâce à une campagne très active sur les réseaux sociaux et surtout sur le terrain. Le premier ministre israélien a inversé la tendance. Son parti progresse par rapport à septembre. Il débouche en tête. Il a donc un avantage psychologique. Son discours très dur sur l'annexion d'une partie de la Cisjordanie a aussi payé. Gantz, lui, pèse sa droitisation, il a collé au plan Trump et puis il a pris ses distances avec les Arabes israéliens, ce qui a brouillé son image centriste. Les Arabes israéliens, troisième force du pays, sont au plus haut depuis 20 ans et la gauche est au plus bas depuis la création de l'État en 1948. À présent, Benjamin Netanyahou va maintenant discuter avec tous les partis qui sont en dehors de sa coalition. Il espère débaucher les 3 sièges nécessaires à une majorité absolue, mais en attendant, un calendrier ne change pas, c'est son calendrier judiciaire. Benjamin Netanyahou a rendez-vous devant la justice pour son procès dans 2 semaines tout juste.
Merci Frédéric Mettezo à Tel Aviv ce matin pour France Inter avec Marc Garvenès pour les moyens techniques.
Il est 7h03, Agnès, comment travailler et se déplacer alors que le coronavirus continue à se propager?
191 cas déclarés à ce jour et un troisième décès annoncé hier. Il s'agit d'une femme de 89 ans hospitalisée à Compiègne. L'Oise reste à ce jour le département le plus touché avec 64 cas déclarés. De nombreux établissements scolaires sont fermés. Plusieurs personnalités, dont le préfet de l'Oise, le sous-préfet de Senlis et le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, placés en quarantaine car ayant côtoyé des personnes contaminées. Et pourtant, tous les jours, des milliers de voyageurs en provenance de l'Oise et d'ailleurs se croisent dans la gare la plus fréquentée d'Europe, la gare du Nord. C'est un reportage de Claire Tchekalini.
Au milieu du flux des voyageurs en partance pour Bruxelles, Londres ou Amsterdam, Hervé, utilisateur quotidien des TER de Picardie, rentre chez lui.
On m'a pas dit vous habitez près de Creil, il faut pas venir à votre lieu de travail. Enfin, j'ai pas eu pour l'instant ce type d'information et ça me paraît pas s'imposer pour le moment.
Christine, elle, a choisi de porter un masque.
Je ne peux pas dire que je suis vraiment inquiète, mais je préfère prendre des précautions. Et bon, je ne suis pas toute seule quand même.
Nathalie préfère, elle, le gel pour les mains. Même si se fondre parmi les 750 000 voyageurs qui transitent chaque jour par la gare du Nord, alors que les mesures anti-Covid-19 près de chez elle sont drastiques.
C'est complètement incohérent, mais après, on suit le mouvement, on n'a que ce choix.
Alors la perspective d'une réduction des transports pour endiguer la propagation du virus fait bondir Nathalie.
Moins de trains, non, parce que déjà avec la grève ça a été pas mal, on en a bien bavé, donc rajoutons des wagons, ça peut contribuer au fait qu'on soit pas les uns sur les autres. Donc à moins peut-être se parler près du visage ou à tousser près de quelqu'un, puisqu'il faut garder une certaine distance, etc. Donc voilà, ça peut être une des solutions.
Et aucune mesure particulière n'a été annoncée concernant les 50 trains qui assurent la liaison quotidienne entre Creil et Paris-Gare du Nord.
Reportage de Claire Checaglini. Et la ministre des Transports a déclaré hier qu'il n'était pas question d'arrêter les trains. La RATP, de son côté, rappelle que 1000 agents sont mobilisés chaque jour pour nettoyer rames et bus. Dans l'Essonne, en revanche, 200 conducteurs de bus de la entreprise Keolis Meyer ont observé hier leur droit de retrait. Emmanuel Macron a lui annulé tous ses déplacements, pas de visite dans le Gers demain et le dîner du CRIF ce soir n'aura pas lieu. Annulé aussi le salon du tourisme mi-mars à Paris, le tourisme secteur très touché depuis 2 mois, comme l'univers du luxe. Les annulations de défilés s'enchaînent, Agnès Beyer, les acheteurs chinois ont déserté les boutiques et même si officiellement les grands groupes français se veulent rassurants, l'inquiétude est palpable, Laurent Kramer.
Officiellement, l'impact économique du coronavirus sur le luxe est à ce stade soutenable, indiquent les grandes marques françaises et étrangères. Mais les analystes financiers sont beaucoup moins optimistes que la communication des marques. Un ancien dirigeant d'un géant du luxe français n'hésite pas à parler de désastre pour le secteur. Le luxe dépend à 35% du marché asiatique. Les restrictions de voyages d'affaires, annulations de déplacements et fermetures de boutiques en Chine feraient ainsi plonger les ventes du luxe de 15% minimum cette année, avec une croissance zéro en perspective pour les grandes marques, prédisent les analystes. Plus inquiétant encore, l'impact psychologique est décisif dans le secteur, souligne un spécialiste. Le luxe, contrairement à d'autres marchés, ne fonctionne pas sur des reports d'achat. Les grandes marques ont donc les yeux rivés sur leur courbe de vente et pris pour une sortie rapide de la crise sanitaire.
Le gouvernement prévoit d'ailleurs une croissance française sous la barre des 1% cette année et les ministres du G7 doivent tenter aujourd'hui par téléphone de coordonner leurs actions pour essayer de soutenir la croissance. Si le Covid-19 se répand dans le monde, le nombre d'infections recule en Chine. 125 nouveaux cas hier, dont 7 sur des personnes de retour d'Italie. Pékin redoute donc à présent une recontamination du pays. Par ailleurs, Paris, Berlin et Londres ont annoncé une aide de 5 millions d'euros et du matériel pour aider l'Iran à faire face à l'épidémie. L'Iran, où doit en principe s'ouvrir aujourd'hui le procès des 2 chercheurs français détenus depuis 8 mois à Téhéran, accusé de propagande contre le système. Nous y reviendrons dans le Zoom de France Inter à 7h15. En bref, encore à l'étranger, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se retrouveront demain à Bruxelles pour aider la Grèce et la Bulgarie face à l'afflux de réfugiés venus de Turquie. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès, et c'est jour de motion à l'Assemblée.
Pour la première fois depuis le début du quinquennat, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote son projet de réforme des retraites, le fameux 49-3. 2 motions de censure lui seront opposées ce soir, l'une portée par la droite LR, l'autre par l'opposition de gauche, sans risque pour Édouard Philippe, mais cela pourrait tout de même laisser des traces, Yael Gauze.
Dans la course à la motion de censure, ce sont les Républicains qui ont été les plus rapides ce week-end. Premier à déposer, premier à parler donc, motion qui sera portée vers 21h30 par le président du groupe, Damien Abad, avant de céder le micro pour l'autre motion à son collègue communiste, André Chassaigne, aux alentours de 23h. Une censure en stéréo, c'était déjà le cas en juillet 2018 en pleine affaire Benalla. 104 députés LR d'un côté, 63 députés socialistes, communistes et insoumis de l'autre. 2 motions qui ne se recoupent pas et ne s'additionne pas, sans risque donc pour l'exécutif, estime Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille 2.
C'est inoffensif, il n'y a pas suffisamment de dissidence au sein du groupe majoritaire pour faire craindre quoi que ce soit, mais ça peut laisser des traces. Dominique de Villepin, en 2006, sur la célèbre loi CPE, 49-3 plus contestation sociale. Je ne connais pas encore l'ampleur de celle qui aura lieu ce mardi. L'avenir le dira.
Un 49-3 version Villepin qui avait fini par une loi promulguée mais jamais appliquée. À chacun sa motion, à chacun sa stratégie. La droite LR veut montrer que son contre-projet est crédible avant que le Sénat n'examine la réforme. La gauche, elle, réclame toujours le retrait du texte et cherche un appui et dans la rue et dans les urnes les 15 et 22 mars pour y parvenir.
L'opposition cherche l'antidote au 49-3. Ce soir, le sujet du téléphone sonne avec Fabienne Sintès à partir de 19h15. Et puis les syndicats appellent à la mobilisation. Hier soir déjà, quelques milliers de personnes ont manifesté à Paris, à Marseille ou encore à Montpellier. L'offre de reprise du quotidien France Antilles par la holding personnelle de Xavier Niel prévoit le maintien de de 115 à 135 des 235 salariés du groupe. La décision du tribunal de Fort-de-France doit être annoncée mardi prochain. Pourrons-nous encore profiter des belles plages des Antilles en 2100? Pas sûr si l'on en croit l'étude parue hier. La moitié des plages de sable dans le monde pourrait disparaître d'ici 80 ans en raison de la hausse du niveau des océans due au réchauffement climatique. Explication de Célia Kiré.
Les scientifiques ont travaillé à partir de deux scénarios. Le pire, si on ne change rien et si les émissions de CO2 continuent au rythme actuel. Et un autre, avec un réchauffement limité à 3 degrés. Dans le premier, la moitié des plages disparaîtraient en 2100, c'est-à-dire environ 130 000 km de côte, plus de trois fois la circonférence de la Terre. Dans le second, plus d'un tiers des littoraux restent menacés. En cause, la hausse du niveau des mers, mais également l'urbanisation, certains aménagements comme les digues, les barrages ou les prélèvements de sable. Parmi les pays les plus en danger, l'Australie perdrait 15 000 km de littoral. Mais cette menace pèse aussi sur le Canada, le Chili, les États-Unis, le Mexique et sur certains pays d'Afrique plus vulnérables. Or, ces plages ne présentent pas seulement un intérêt touristique, elles fonctionnent comme un rempart contre les tempêtes, les ouragans, les inondations. Dans son dernier rapport, le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, estimait que le niveau de l'océan pourrait monter de 50 à 84 cm d'ici 2100, mais il n'allait pas aussi loin dans le décompte probable des plages menacées.
Et pour l'instant, c'est la tempête Myriam qui menace le sud-ouest de la France. Météo France a placé 6 départements en alerte orange pour des vents violents.
Et enfin, des licornes, des elfes et beaucoup de magie pour terminer ce journal, Agnès.
C'est en effet l'univers du nouveau Pixar, En Avant, qui sort demain sur les écrans. Une histoire fantastique des créateurs oscarisés de Coco qui mettent en scène deux frères orphelins qui tentent de faire revivre leur père disparu. Corinne Pélissier.
Difficile d'occuper l'espace quand on est timide, réservé et sans aucune confiance en soi. À 16 ans, le jeune Yann en sait quelque chose et aurait bien besoin d'un petit coup de pouce pour égaler son grand frère Barley. Une forte tête, tout en muscles, obsédé par les licornes et les personnages d'Heroic Fantasy. C'est dans cet univers peuplé de trolls et de centaures que les créateurs de l'excellent Coco ont décidé de placer les aventures du tout dernier Pixar. Deux elfes, doublés en VO par Chris Pratt et Tom Holland, qui vont tenter ici de faire revivre leur père disparu à l'aide d'un bâton magique et d'une pierre de phénix cachée dans les montagnes.
Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie? Mais non, ça se peut pas.
Si, ça se peut, avec ça.
Une quête du Graal remplie d'humour et de danger qui explore avec succès des thèmes pas toujours très nouveaux. Le deuil d'un parent, la persévérance, le courage. L'animation est réussie et la magie opère. Après avoir multiplié pendant 10 ans les suites et les franchises des Indestructibles à Toy Story, les studios Pixar se recentrent sur des projets plus originaux, plus en phase avec le quotidien du public. Les amateurs d'Heroic Fantasy ou de jeux de rôle apprécieront.
En Avant donc, demain sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.